France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, Donald Trump bombarde le Venezuela, Zoran Mamdani est investi maire de New York. Nous serons avec Perrine Simon-Nahum, Gilles Gressani, Richard Verly et Lumière Lapré. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Swad Boukorsa.
Eh bien, nous allons gérer cela en équipe et nous allons nous assurer que tout se passe bien. Nous allons reconstruire l'infrastructure pétrolière, ce qui coûtera des milliards de dollars. Ce sera financé directement par les compagnies pétrolières. Elles seront remboursées pour leurs travaux, mais cela sera payé. Et nous allons rétablir la production pétrolière à la hauteur de son potentiel. Comme vous le savez, l'exploitation actuelle est très en deçà, compte tenu des ressources disponibles. Mais nous corrigerons cette situation et nous veillerons à ce que le peuple vénézuélien soit pris en charge. Nous veillerons également à ce que les personnes qui ont été forcées de quitter le Venezuela par ce tyran soient prises en charge.
Le président américain Donald Trump, hier depuis la Floride aux États-Unis, après avoir, dans la nuit, bombardé et capturé le président du Venezuela, Nicolas Maduro, et son épouse, il tient une conférence de presse pour assumer et se féliciter de cette opération militaire qu'il juge inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Il annonce, à la surprise générale, que ce sont les États-Unis qui géreront le pays en attendant une transition sûre, pour reprendre son propos. Depuis, la vice-présidente du Venezuela actuelle, Delcy Rodriguez, assure l'intérim. Nicolas Maduro, successeur d'Hugo Chavez en 2013, était à la tête du pays depuis. En 2024, malgré des élections contestées, il se maintient au pouvoir pour un troisième mandat, des centaines de prisonniers politiques, des millions d'exilés, un pays au bord du gouffre. Transporté par un navire de l'armée américaine, il est arrivé à New York, où il doit être jugé pour trafic de drogue. Une opération militaire américaine doublement illégale, selon l'éditorial du New York Times, qui contreviendrait au droit international, mais aussi au droit fédéral américain, appuyé par l'ONU pour le premier, qui rappelle aussi les violations aux droits humains qui pourraient être des crimes contre l'humanité commis par le gouvernement Maduro. Et des critiques venues des oppositions de Donald Trump et du monde. En France, une réaction tardive et enthousiaste du président Macron, bien différente de celle de son ministre des Affaires étrangères, qui appelle, lui, à respecter la charte des Nations Unies. Au moment de cette attaque et des explications données par Donald Trump à Palm Beach, au nord de la côte Est, le nouveau maire de New York, investi le 1er janvier après son élection, Zoran Mamdani, présente son équipe municipale. Il se pose aujourd'hui en opposant à Donald Trump. Que nous disent ces événements? Comment les comprendre et les analyser? Bonjour, Perrine Simon-Nahum.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Je cite votre dernier ouvrage, Aron, critique de Sartre, chez Calman Lévy, en mars dernier. Bonjour à vous, Gilles Gressani.
Bonjour.
Merci d'être là, directeur de la revue Le Grand Continent. Je cite votre chronique hebdomadaire le vendredi sur France Culture à 8h50. Bonjour à vous, Richard Verly.
Bonjour.
Merci d'être là, éditorialiste international à Blic, auteur de « Cette Amérique qui nous déteste » aux éditions Nevicata, paru cette année en octobre. Et puis, bienvenue à vous, Lumière Lapré.
Bonjour.
Merci d'être là, activiste spécialiste de la lutte contre la montée de l'extrême droite dans la ruralité. Votre dernier livre chez Payot, ces gens-là plongés dans cette France qui pourrait tout faire basculer. Vous connaissez également très bien les États-Unis. Alors, comment lisez-vous, Gilles Gressani, les événements de ces dernières heures?
Ben vous avez eu raison, Astrid, de commencer par rappeler cette conférence de presse qui était précédée par un discours, en fait, par un discours prononcé. C'est assez rare chez Donald Trump, d'un texte lu. Et c'est un texte très important. Nous l'avons traduit et publié dans Le Grand Continent. Je pense que c'est un document historique. Il faut vraiment partir de là. Si on le lit comme un document historique, on se rend compte d'une chose qui est très évidente, c'est que le mot démocratie n'apparaît jamais. Et donc, vous avez un changement assez fort, en fait, de la manière dans laquelle les États-Unis se conçoivent comme une puissance. Au fond, on pourrait dire, et c'est un discours qu'on entend beaucoup ces jours-ci, ces temps-ci, ces heures-ci, en fait, c'est que, au fond, les États-Unis, c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pas la première fois que changent par l'extérieur avec une violence militaire inimaginable, avec une force aussi qui est un peu unique au monde, d'autres systèmes politiques ailleurs. Mais ce qui est en train de changer, c'est la manière et la logique, le logiciel qui porte à ces changements. En fait, aujourd'hui, on n'est pas face à un changement de régime classique. Maduro a été enlevé. Il va être sans doute jugé. Ce sera le premier président en place à être jugé par un autre ordre légal. Mais c'est pas tant ça le sujet fondamental, c'est que le régime n'a pas changé au Venezuela. Le régime chaviste est toujours en place. Et pourquoi il est toujours en place? Donald Trump l'a expliqué, parce que l'idée, c'est pas tant de transformer le pays, de faire ce que, dans les années des néoconservateurs, on appelait du state building, la construction d'un nouvel État par l'extérieur. On a vu que c'était un échec en Irak. Mais c'est de faire autre chose. C'est d'apporter une logique que certains des conseillers, des personnes les plus proches du président appellent une logique non pas simplement impériale, mais de récolonisation. Où il s'agit, au fond, de, l'extrait que vous avez passé est très clair, de prendre les ressources d'un pays, de gérer le pays de l'extérieur, de, au fond, faire de d'autres États, non pas des espaces dans lesquels on a des interlocuteurs qui sont plus ou moins égaux, mais des espaces dont on peut extraire les ressources. Et cette logique de la récolonisation est quelque chose qui nous fait rentrer dans une ère nouvelle, parce que si nous sommes quelque part, et ça ressemble à quand même une nouvelle guerre froide, celle entre la Chine et les États-Unis, au fond, la première guerre froide était caractérisée par la décolonisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment dans lequel les États-Unis prônent une forme de récolonisation. Et ça change évidemment la donne, non pas simplement pour le Venezuela, mais pour les États-Unis eux-mêmes. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, les États-Unis, c'est pas de changer le Venezuela. Ce que Donald Trump et son élite est en train de faire, c'est de changer les États-Unis en utilisant le levier externe.
Perrine Simon-Naoum.
Alors, je ne sais pas si j'emploierais le terme de recolonisation, car quand on pense à ce qu'a été le phénomène de colonisation, il y a quand même deux volets dans la colonisation. Il y a évidemment l'impérialisme et l'exploitation des ressources, mais il y avait aussi un volant humanitaire au 19e et au 20e siècle, qu'on peut discuter, mais qui est incontestablement présent. Ce que je dirais plutôt, c'est que à travers ce qui s'est passé hier, finalement, le populisme révèle sa véritable nature. Le populisme, on sait que ce sont deux éléments, hein, Marc Lazare ou Pascal Perrineau le rappellent souvent, c'est-à-dire d'une part la séparation entre le peuple et les élites, le jeu de l'un contre l'autre, et la violence. J'ajouterais maintenant un troisième élément qui est le cynisme. En fait, le cynisme peut s'analyser de deux façons, soit une position morale, voilà, dans la vie de tous les jours, soit une attitude philosophique. Le cynisme, on se souvient, ça vient du grec, du chien, kuon, et c'est l'attitude, par exemple, d'un philosophe comme Diogène qui rompt avec toutes les bienséances, à la fois sociales et morales, le philosophe chien. Et je dirais que c'est là où nous sommes confrontés au problème de notre société aujourd'hui, à savoir la question de la vérité et du mensonge, et de la position politique. Parce que d'une certaine façon, Trump a fait ce qu'il a dit. C'est ça qui est toujours fascinant avec les dictateurs, hein, on l'a dit souvent pour Hitler. Les dictateurs disent ce qu'ils vont faire, ils font ce qu'ils disent. Or, c'est un danger, à la fois, on le voit, pour nos institutions internationales. Les institutions internationales, on a besoin, je dirais, de leur ordre dans ce qu'elles apportent au fonctionnement mondial, mais on a aussi besoin de quelque chose qui est un peu plus complexe à saisir, qui est finalement l'adhésion des différents acteurs internationaux à ces institutions. Même si, effectivement, elles ont failli, et on sait combien l'ONU a failli, on a besoin, pour un ordre international, qu'il y ait un semblant d'adhésion. Et je vous rappelle comment Michel Foucault, qui s'est intéressé au cynique, définit le cynique. Il dit le cynique, c'est l'homme à la barbe hirsute, c'est l'homme sale, mais c'est aussi l'homme qui erre. C'est l'homme à qui il manque toute insertion. Il n'a ni maison, ni famille, ni foyer, ni patrie. Et d'une certaine façon, c'est ça que nous fait sentir la position de Trump aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'elle met doublement en péril l'ordre international et plus encore, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir, nos démocraties.
Richard Verlier.
D'abord, je voudrais revenir sur les faits, parce que tout ce qui a été dit sur la volonté de Donald Trump et la volonté des États-Unis sous Donald Trump me semble très juste, mais il y a une séquence politique qui est quand même fascinante. On assiste à l'enlèvement d'un président, a priori dans son palais présidentiel, si les médias américains, si ce qu'on lit est juste. Un Donald Trump qui, quand même, je le rappelle, à 80 ans, a du cran, il faut le reconnaître. Il déclenche une opération dont il ne sait pas au moment où il la déclenche ce qu'elle va donner. Ça peut devenir une catastrophe absolue. Les forces spéciales qui sont envoyées au Venezuela peuvent se trouver enlisées, voire surprises. Et cet aspect-là, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Parce qu'au fond, c'est ça qui fascine. Et ça va être ça son arme ultime du populisme. C'est qu'il dit à tous les dirigeants de la planète, moi, Donald Trump, je suis capable de faire ça. Et avouons-le quand même, regardons-nous en face. On s'est tous demandé un jour si finalement l'enlèvement d'un dictateur ne réglerait pas les problèmes. Au moment de l'invasion de l'Ukraine, rappelez-vous, il y a eu beaucoup d'articles sur le thème « Et si Poutine mourait ?» ou « Si Poutine était enlevé ?» Finalement, tout serait réglé. Donc ce simplisme-là, qui consiste à dire « Il suffit de décapiter un régime par la force et tout ira mieux », je crois qu'il parle à tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais le signaler, parce que la force de la communication de Trump, c'est qu'il a fait quelque chose en tant que patron de la première puissance mondiale qui parle à tout le monde. Et la difficulté qu'on va tous avoir quand on va redescendre dans la rue et parler aux gens, c'est que beaucoup de gens vont dire, mais vous voyez, au fond, il a fait enlever un trafiquant de drogue reconnu, alors qu'il n'est que présumé et qu'il va être jugé par la justice américaine. Il l'a fait enlever par la force. Il n'y a pas eu de mort, en tout cas, dans les forces américaines. Les civils vénézuéliens, on ne le sait pas et on peut faire confiance aux États-Unis pour maintenir une sorte de brouillard là-dessus. Donc moi, je suis très inquiet sur la portée de ce message. Parce que c'est le message le plus simple qui soit, et le plus convaincant qui soit auprès d'un nombre très important de gens. Et c'est ça, et moi, ça ne me surprend pas du tout, parce que quand j'ai enquêté aux États-Unis pour mon livre sur l'Amérique qui nous déteste, c'était le regard sur les Européens, j'ai bien vu que l'électorat de Trump veut ça. C'est les solutions qu'ils ont en tête. Finalement, c'est la loi du shérif, on l'a beaucoup écrit. Il suffit que le shérif sache sortir son revolver au bon moment, sache abattre les ennemis, et les problèmes seront réglés. Et je crois qu'il va falloir, pour que l'ordre international ou le droit international arrive à revivre, il va lui falloir trouver de sacrés arguments. Comment on défend le droit international face à ce qui semble, pour le commun des mortels, une solution finalement assez acceptable. Toute la question maintenant, à mon avis, il y en a deux. D'abord, que va-t-il se passer politiquement au Venezuela ? Trump a quand même annoncé qu'il allait diriger le pays sans donner le moindre détail. Qu'est-ce que ça veut dire, la direction du Venezuela par les États-Unis ? Est-ce que c'est l'installation, par exemple, d'un proconsul ? Et dans ce cas, comment ? Et sur la recolonisation, moi, ça me ramène à quelque chose qui m'avait frappé aux États-Unis. C'est qu'au fond, Trump, ce qu'il reproche à l'Europe, parmi les nombreux reproches, c'est d'avoir abandonné nos colonies. Nous étions un empire, les Européens avaient des empires. Nous avons commis à ses yeux la stupide erreur d'abandonner des empires qui nous ravitaillaient en ressources naturelles, qui alimentaient nos économies et qui ont fait notre prospérité pendant à peu près plus d'un siècle. Eh bien voilà, on se retrouve avec un président qui, lui, applique à la lettre sa logique coloniale. Là où il y a ressources dans l'intérêt des États-Unis, je me les approprie.
Lumière l'après.
Ce que je trouve que la séquence dit, surtout la juxtaposition entre l'inauguration de Zoran Mamdani un jour et cette ingérence impérialiste deux jours après, c'est vraiment pour moi l'exemplification de ce que disent d'ailleurs Cast au Chili, Mamdani, Donald Trump lui-même. Nous sommes à un moment où le statu quo ne peut plus tenir. Et donc, face à ce modèle à bout de souffle, il y a deux approches. Une approche autoritaire qui postule que pour maintenir ce modèle d'extrême inégalité, d'extrême violence capitaliste, raciste, il faut utiliser la brutalité. Parce qu'il n'y a plus d'adhésion des masses à ce modèle. Ou il faut profondément refonder ce qui fait le pacte démocratique, et c'est bien la proposition de Zoran Mamdani. Moi, ce que je trouve très important de rappeler, c'est aussi le contexte, le contexte américain, local, dans lequel cette ingérence impérialiste arrive. C'est un contexte d'immense fragilité pour Donald Trump, où le camp MAGA se pose la question de la suite de Donald Trump. Donc, il faut rappeler, parce que nous, on en parle assez peu, mais Donald Trump, en ce moment, il est extrêmement fragilisé, toujours par le dossier Epstein, hein, qui continue à faire... Enfin, il y a des nouvelles révélations qui sortent chaque jour et qui le fragilisent un peu plus dans cette image du grand héros qui lutte contre les élites corrompues, parce qu'en fait, on constate jour après jour qu'il n'est qu'un rouage de plus de ce système d'establishment que lui-même avait appelé à détruire. Il est extrêmement impopulaire et j'imagine bien que parmi les gens qui le conseillent, on lui a rappelé que des moments d'ingérence comme ça, très rapides, qui mobilisent tout l'imaginaire militaire américain dont le peuple est quand même largement abreuvé à coup de Hollywood, à coup de complexes industriels militaires, etc. Et bah que ça peut redonner un peu de regain à sa cote de popularité. C'est un moment où il arrive au bout aussi des promesses d'extrême brutalité locale qu'il avait faites. Donc, par exemple, la police d'immigration qui kidnappe, je rappelle encore aujourd'hui, hein, des familles qui placent des gens dans des centres de rétention administrative dont on ne sait même pas trop où ils sont encore aujourd'hui. Hein. Tout son projet d'occupation par l'armée des grands centres démocrates, donc Chicago, la Nouvelle-Orléans, etc. On voit bien que ça, c'est un peu à bout de souffle. Donc moi, ce que j'analyse aussi, c'est une tentative par Donald Trump de reprendre la main, y compris au local, et finalement juste d'honorer une des promesses majeures qu'il avait faites, qui pour le coup, ça, il la tient, c'est de rendre toujours plus riches les méga donateurs qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Il avait promis, je rappelle, hein, drill, baby drill, le retour du pétrole, le retour du charbon, le retour des gaz, et c'est exactement ce qu'il fait à travers cette ingérence impérialiste. Et d'ailleurs, merci d'avoir rappelé qu'il n'est pas question de démocratie, mais je crois que, enfin, après l'Irak, on le sait maintenant. Donc la charade ne tient plus, finalement, il est juste assez honnête en disant que le projet est un projet extractiviste, tout simplement.
Je cite la députée de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a dit, pour aller un peu dans votre sens, il ne s'agit pas de narcotrafic, il s'agit de pétrole et de changement de régime. Ils ont besoin d'un procès pour faire croire que c'est le cas et éloigner l'attention du dossier Epstein. Gilles Gressani, peut-être là-dessus si vous voulez réagir, et puis pour faire un petit peu avancer notre discussion, qu'est-ce que ça nous dit du moment de l'ordre international? Est-ce qu'on est à un point de bascule? Et j'aimerais, je passe de Alexandria Ocasio-Cortez à Gabriel Attal sans transition, mais vous mettre aussi cette réaction. Il a dit, nous sommes trop souvent, nous Européens, des défenseurs béats d'institutions désormais totalement dépassées. Se contenter d'être les derniers à défendre la Charte des Nations Unies est peut-être cohérent avec notre histoire, mais c'est surtout être complètement effacé.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement un problème un peu structurel. Et c'est le suivant, c'est qu'on voit très bien que le monde est en train de changer d'une manière vertigineuse. Et on voit très bien aussi qu'il y a des raisons pour que ça change. Et au fond, la difficulté dans laquelle se trouve une partie des démocrates, des personnes qui sont sincèrement républicaines, c'est de se retrouver aujourd'hui face à une transformation qui clairement veut sortir de ce cadre-là, veut effacer la République, veut effacer la démocratie. Et en même temps, on le voit bien, avec très peu d'arguments, très peu de capacité de défendre, au fond, ces institutions et ce système. En gros, on se retrouve paradoxalement avec un mouvement néo-réactionnaire à Washington qui veut transformer l'État, la politique, les structures du pouvoir. Et en même temps, nous, on risque de se retrouver en train de défendre un ancien régime. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très difficile à jouer. Et c'est, je pense, que l'impasse dans laquelle nous sommes aussi est en partie, il faut le dire, parce qu'il y a une absence terrible d'imagination institutionnelle, de capacité à penser le futur en Europe. Nous sommes un peu vraiment encore toujours convaincus. C'est une chose qui me frappe qu'au fond, la fin de l'histoire, c'est le meilleur des régimes possibles. Et ça reste là. Et on le voit bien. Là, ça va de plus en plus loin, les provocations. Hier, dans la nuit, la femme des personnes les plus importantes du premier cercle de Donald Trump, Miller, a partagé une carte du Groenland avec le drapeau américain dessus, en donnant suite en fait à déclarations précises du président Trump et qui se sont étayées par ailleurs aussi dans la stratégie de sécurité nationale qui est publiée par Washington et qui a deux volets, un volet hémisphérique, donc il s'agit de reprendre le contrôle de la nouvelle doctrine Monroe et donc reprendre l'Amérique latine et remettre au pas l'ensemble de l'Amérique latine et en même temps aussi vassaliser l'Europe. Et on a vu que en 2026, ça accélère parce que le trumpisme est en train aussi, quelque part, de être pris dans l'impasse classique qui est l'un d'eux de la révolution. Vous êtes en place, le système a essayé de changer, le système commence à répondre au choc du changement, et pour aller plus loin, il faut accélérer dans le changement. Et ce qu'on voit, c'est que 2026 a commencé avec cette idée-là, et que c'est quelque chose qui va par la suite nous concerner de plus en plus et de plus en plus proche. Et c'est là que se pose la question, et je pense que c'est un des thèmes fondamentaux de l'année qui vient, de aligner le diagnostic qui est ressenti par tout le monde. On a compris, au fond. Si vous voulez, on n'est plus dans la situation dans laquelle on ne croit plus aux mots de Donald Trump. Les mots de Donald Trump ont des effets, on le voit. Mais on ne veut pas y croire. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très problématique, c'est que normalement, le rôle des leaderships, du leadership politique, c'est de contribuer à la fin de ce blocage, à la fin du déni. Au fond, on a senti, on le sent, et on le voit. On le voit aussi par un fait qui est tout à fait paradoxal, mais très profond. Les forces, disons, qui devraient être plus trumpistes en Europe, les forces qui sont inscrites à la droite de la droite sur l'échiquier politique, aujourd'hui ont beaucoup de mal à assumer une proximité idéologique avec Donald Trump. Si vous prenez les déclarations à la fois de Marine Le Pen, à la fois de Jordan Bardella, suite aux frappes et à l'enlèvement de Maduro, eh bien, elles revendiquent la protection de la souveraineté, elles critiquent fortement ces frappes.
Et pas le président Macron.
Et c'est là qu'il se trouve quelque chose de très paradoxal, c'est que si le leadership politique en Europe, en France et en Europe, ne parvient pas à avoir un discours de clarté sur la menace qui est là, ce sera extrêmement difficile de dégager cette énergie populaire et républicaine qui existe, qui essaye et qui pense et qui peut penser une autre forme, une alternative. Et c'est là que c'est sur ce point-là que compte, à mon avis, une bonne partie de la base trumpiste et dans son opération de vassalisation de l'Europe, c'est de convaincre les Français et les Européens qu'il n'y a pas d'alternative, qu'ils sont finis, et que du coup, la seule chose à faire, c'est de se mettre au pas.
Pourquoi Emmanuel Macron ne condamne pas, contrairement par exemple à Marine Le Pen, ou contrairement par exemple à Pedro Sanchez en Espagne, Perrine Simon-Naoum?
Eh bien, je crois que c'est d'une certaine façon parce que il illustre malheureusement cette position de faiblesse de l'Europe. Et ce que vient de dire Gilles est très important, me semble-t-il, parce que effectivement, maintenant, nous savons ce qu'est le populisme, nous avons analysé les choses, mais nous sommes face à une nouvelle difficulté qui est celle de ne pas succomber au discours du populisme, à savoir de ne pas succomber à cette nouvelle mythologie. Finalement, à ce nouveau récit mythologique qu'il met en place. Le populisme, c'est à la fois, je dirais, un symptôme de cette régression démocratique dans laquelle nous sommes et qu'on pourrait définir comme une nouvelle ère mythologique, c'est à la fois le symptôme et l'arme, c'est-à-dire l'idée d'imposer un récit unique. Et c'est là où je crois qu'on doit, en tout cas, critiquer ce qu'a dit Gabriel Attal, mais je pense qu'il s'agissait, en fait, chez lui, plutôt d'une maladresse, et où peut-être le président Macron a essayé de trouver une ouverture, je n'en sais rien, mais qui était aussi maladroite, c'est-à-dire dans la déconstruction de ce discours mythologique, l'idée de montrer que la démocratie a des choses à dire, non pas en se plaçant sur le terrain de ses adversaires, parce que si nous allons sur le terrain de nos adversaires, nous serons toujours moins forts, nous serons toujours moins sanguinaires, nous serons toujours moins violents, nous serons toujours moins définitifs, mais en faisant valoir ses propres arguments. Et donc, ce que vient de dire Gilles est absolument essentiel, et c'est peut-être là qu'il y aurait un rôle à jouer pour les intellectuels, pour les philosophes, à savoir fournir aux politiques dont ça n'est pas en réalité le rôle, cette espèce de discours qui permette de réasseoir, de réenchanter en quelque sorte la démocratie, c'est-à-dire tout simplement la volonté de rattacher le discours au réel. Et c'est là où peut-être, mais on y viendra, je critiquerai le discours d'Alexandra Ocasio-Cortez, parce que je n'aime pas les discours monistes. Il n'y a jamais une seule causalité. Effectivement, l'action de Trump, elle trouve son origine dans la cupidité, dans l'enrichissement, dans le pétrole, mais ça n'est pas la seule, ça n'est pas la seule origine. Et je pense qu'il y aurait une erreur de la gauche radicale, et on voit qu'elle s'engouffre, notamment en France, dans cette erreur, d'aller de se construire comme opposante au populisme de droite, comme un populisme de gauche.
Loumière Laprès ?
Je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, les comparaisons entre populisme de droite et populisme de gauche, ils échappent quand même toujours à penser la différence profonde, notamment du rapport à la violence. Le populisme d'extrême droite, c'est un projet violent de captation du pouvoir par une élite économique. Le populisme de gauche, c'est au contraire de redonner le pouvoir au peuple. Donc c'est là où moi, je suis toujours un peu gênée de ces équivalences.
Perrine Simon-Naou.
Alors, je pense que l'histoire nous a montré que malheureusement, il y a un même rapport à la violence, que ce soit à droite ou à gauche. Le peuple auquel on fait allusion n'est pas le même, mais le pouvoir des leaders, que ce soit les populistes de droite ou les populistes de gauche, dans l'histoire, nous ont montré que il y a une même captation du pouvoir à leur profit et l'utilisation de la plus grande violence possible.
Alors, c'est là que peut-être on fait pas les mêmes comparaisons non plus. Je considère pas que le stalinisme, le maoïsme soit un populisme de gauche. Au contraire, je me réfère plus à une histoire ouvriériste, à l'histoire du Parti communiste en France, à une
au gauche de l'Amérique latine. Qui était
aussi aux gauches de l'Amérique latine, oui, tout à fait. À la gauche américaine radicale qu'on voit émerger avec Bernie Sanders, avec Alexandria Ocasio-Cortez, etc. Ce que je trouve important, c'est quand même que... Parce que pourquoi cette équivalence, elle me gêne ? C'est qu'on fait comme si on était dans un contexte neutre. Or, on est dans un contexte de captation extrême du pouvoir politique par une élite économique. C'est-à-dire, par exemple, il faut quand même rappeler aux États-Unis que depuis une décision de la Cour suprême, Citizens v. United, on considère que l'argent est un moyen de liberté d'expression. Et donc, aujourd'hui, le principe même de la démocratie qui dit une personne égale une voix n'est plus respecté parce que ce sont des milliardaires qui captent la capacité à la fois créer du discours et de la pensée, notamment en contrôlant, je rappelle en France, 10 milliardaires qui contrôlent plus de 90% des médias.
On va quand même rester sur le Venezuela.
Mais du coup, je pense que c'est juste important de le dire parce que ce mouvement de balancier, il existe aussi dans un moment d'extrême tension et d'extrême inégalité qui reviennent sur le devant de la scène.
Richard Verly, votre avis sur cet ordre international de 1945 qui vole en éclats. Je cite un extrait du communiqué de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Instruite par l'histoire, la France s'y prépare à la multiplication des violations du principe des Nations Unies, mais ne peut s'y résoudre. C'est vrai que c'est ce que nous disait à l'instant Gilles Gressani, cette espèce d'entre-deux. L'Europe est extrêmement divisée. Kaya Kallas, la chef de la diplomatie, nous a dit « j'appelle à la retenue ». Quelle est votre vision là-dessus ?
D'abord, dans un monde qui est celui de Donald Trump, c'est-à-dire un monde de la rapidité et de la force et du cynisme assumé, il faut quand même que les politiques, là c'est leur rôle, sachent répondre et répondre vite et répondre avec du cran. Et il me semble que dans la réponse d'Emmanuel Macron, ce qui manque, c'est le cran. Il n'a pas le cran de dire à Donald Trump ce que vous avez fait est contraire au droit international. Et la France le déplore. Et on peut imaginer que dans d'autres circonstances, d'autres présidents auraient fait ce type de communiqué. Après, une fois que j'ai dit ça, je pose deux questions. D'abord, n'oublions pas qu'on parle d'un président vénézuélien qui était resté illégalement en fonction puisque les élections avaient été truquées, qu'il est présumé trafiquant de drogue et les charges semblent quand même sérieuses, et que cette drogue, elle est aux portes d'un territoire français nommé la Guyane. Je le dis parce que c'est important. Le communiqué d'Emmanuel Macron porte sur Maduro. Quand vous connaissez l'état de la Guyane aujourd'hui, qui est livré en pâture aux trafiquants de drogue d'Amérique latine, vous pouvez, en tant que président français, vous réjouir de la disparition d'un chef de cartel nommé Maduro. Ça ne justifie pas le communiqué, mais je donne juste cet arrière-plan, parce qu'il ne faut pas oublier de quoi on parle. Le deuxième élément, c'est que, pour répondre directement à la question sur l'Europe, l'Europe aujourd'hui, elle a à mon avis trois problèmes dont elle ne va pas pouvoir sortir. D'abord, elle a un problème d'incarnation, et je reviens à ma théorie du cran. Eh ben, il faut des gens qui aient du cran. Thierry Breton est quelqu'un qui a montré sa capacité à avoir du cran dans certaines situations, et d'ailleurs ça lui vaut d'être interdit de visa aux États-Unis. On peut penser ce qu'on veut du personnage, mais il a fait preuve de cette capacité à dire non. Pedro Sanchez, le dirigeant espagnol, il l'a fait à deux reprises. Il l'a fait au sommet de l'OTAN. En juin 2024, il a été le seul à refuser l'augmentation des dépenses militaires, enfin à refuser le niveau exigé par Donald Trump, à le dire et à l'assumer. Il le fait à nouveau sur le Venezuela. Ça, vous savez, c'est une qualité que tous les politiques n'ont pas. Et dans ce cas de figure, Madame Callas, qui est une dirigeante des Pays-Baltes, qui est obsédée par la Russie, elle n'a pas le cran de dire non à Donald Trump, c'est évident. Enfin, deuxième élément qu'ont les Européens, deuxième difficulté à mon avis, et ça je rejoins ce que dit Gilles, c'est qu'au fond, les Européens, et là je serai indulgent, on paye 50 années de brainwashing américain. Les Américains nous ont lavé le cerveau sur le thème « l'alliance transatlantique est indispensable à notre survie démocratique ». Les États-Unis, et je m'inclus dedans, je ne parle pas en observateur, nous avons tous été biberonnés à cette idée que la meilleure manière de survivre en tant que démocratie, en tant que pays libre, c'est d'avoir la protection des États-Unis. Et c'est extrêmement difficile de s'émanciper de cela, et ça va prendre du temps. Et enfin, troisième élément, là, je rejoins ce qui est dit sur les oligarques. Il y a des oligarques qui nous contrôlent, ils sont américains, c'est ceux du numérique. Et à partir du moment où aujourd'hui le premier média mondial, ce n'est plus les services publics de nos pays européens, les médias qui nous influencent, c'est les médias sociaux contrôlés par les géants de la tech américaine. C'est ces médias-là qui distillent le discours, on va dire, trumpiste. Donc pour ces trois raisons, il est très difficile, mais moi j'ai de l'espoir. Je pense que les Européens, s'il y a un bon casting, espérons qu'il pourrait venir, avec des personnalités qui auront le courage, parce qu'il en faut, de s'opposer à cette Amérique-là, eh bien peut-être qu'à un moment donné, si on s'y oppose, l'Amérique reculera.
Gilles Gressani.
Il y a cette phrase qui a été prononcée par un grand philosophe américain, Mike Tyson, qui était plutôt connu par sa qualité de boxing, mais je pense qu'on est dans un monde dans lequel la philosophie doit apprendre à boxer. Il disait, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive une droite dans la figure. Et je pense que c'est une devise assez importante pour comprendre effectivement où est-ce qu'on se situe vis-à-vis aujourd'hui des États-Unis. Et que, effectivement, ce discours de plus en plus docile, de plus en plus incapable de dire non, est aussi un discours qui a un courage, en fait, à aller de plus en plus de l'avant. Et je pense qu'il y a deux points essentiels qui ont été dits et qu'on peut peut-être, sur lesquels on peut insister. Le premier, c'est que, au fond, c'est vrai, les États-Unis et les pays de l'Union européenne et l'Union européenne étaient pris dans une alliance très profonde, un parti asymétrique, il ne faut pas se voler la fâche, mais qui reposait sur l'idée que si vous êtes allié, vous êtes disponible à avoir des vulnérabilités vis-à-vis de l'autre. Et ça s'appelle des interdépendances. Au fond, si vous êtes un allié avec un autre, vous décidez de mutualiser un certain type de choses, la défense notamment, d'avoir une partie de l'économie qui est de plus en plus intégrée. Ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, c'est un terme un peu technique, mais c'est l'arsénalisation des interdépendances. Au fond, il utilise...
Vous pouvez répéter ?
L'arsénalisation des interdépendances. Au fond, des vulnérabilités des interdépendances. Au fond, ce que Donald Trump est en train de faire, c'est, puisque les pays de l'Union européenne ont des vulnérabilités, sont dépendants des États-Unis sur un plein de sujets essentiels, du digital jusqu'au militaire essentiellement, eh bien, en fait, je vais utiliser ces éléments-là pour leur tordre les bras. C'est ce qu'il a fait dès janvier vis-à-vis de la première ministre danoise, quand il lui a dit « si je n'ai pas le Groenland, on vous débranche de l'ensemble des services numériques dont le Danemark a besoin pour faire tourner son économie ». C'est ce qu'il est en train de dire quotidiennement aux pays, disons, de l'Est du Rhin notamment, « si vous ne donnez pas exactement ce que je veux », eh bien, je vais totalement vous lâcher et la Russie va vous envahir. Or, le problème, c'est que ce processus-là, qui a été décrit par deux très très bons théoriciens de la relation internationale contemporaine, Newman et Farrell, par un terme, là aussi un peu technique, mais un peu plus vulgaire, qui est « enchitification of the American Empire », donc Guillaume Erner traduisait ça par « bordélisation de l'Empire américain », en fait, passe par une logique assez simple, qui est en trois temps. L'institification, c'est un processus qui a été décrit par les économistes, qui est typique de la Silicon Valley. Au fond, vous créez un service qui est de très bonne qualité, et avec ce service qui promet énormément de choses, vous prenez le monopole d'un marché. Une fois que vous avez le monopole du marché, eh bien, ce que vous allez faire, c'est essayer de rendre le plus en plus rentable ce service. Donc, vous allez affaiblir la qualité du service et extraire le maximum de vos usagers. Et ce qui en découle, c'est que finalement, le service lui-même est cassé. ce qui est en train de se passer avec les États-Unis et l'Europe, c'est exactement le même processus. Ils sont en train de institifier leur empire, et c'est pour ça que paradoxalement, on le voit.
Encrassé, on pourrait presque.
Ah, mais c'est presque mieux que la bordélisation du Gouverneur.
Vous me flattez, Gilles.
Mais là-dessus, il y a un point qui est essentiel, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez de levier que sur vos alliés. Un des paradoxes de Donald Trump, c'est, on le remarque, c'est qu'il est faible avec les plus forts, avec Poutine, avec Xi Jinping, mais même avec Lula. Alors qu'il fait le fort avec ceux qui sont aujourd'hui les plus vulnérables vis-à-vis de lui. Et c'est là qui est quelque chose qui est inextricable, qui paraît inextricable pour nous, c'est que pour sortir de ces dépendances-là, il faut du temps. Et justement, pour accélérer ce mouvement et ce temps, il faut du courage politique, il faut de la volonté politique. Or, justement, c'est ce qui manque aujourd'hui, et c'est ce qui nous empêche de transformer assez rapidement, d'être assez réactifs. Et encore une fois, moi je reviens sur ça, ça ne passera que par un constat qui est partagé au niveau des élites politiques. Il faut dire que ce qui se passe est une menace existentielle pour pouvoir par la suite prendre les décisions qui portent et qui porteront à cette autonomie possible.
Peut-être encore deux mots sur cette question avant d'entendre Zoran Mamdani qui s'est opposé frontalement à Donald Trump sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Est-ce que Cuba, la Colombie, d'autres peuvent s'attendre à des scénarios similaires, Loumir Laprès ? Vous avez sans doute entendu Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Si j'étais au gouvernement cubain, je m'inquiéterais. Il est lui-même d'origine cubaine. Ou Donald Trump, le président colombien, je traduis encore une fois gentiment, doit avoir chaud aux fesses.
Oui, je pense que de toute manière, le projet est assez clair. C'est extraire les ressources et menacer la recomposition de la gauche sur l'échelle de l'Amérique latine. Enfin, je veux dire, c'est là où la comparaison avec la guerre froide est, je pense, tout à fait appropriée. C'est que dans un moment où on a le Mexique de Claudia Sheinbaum qui résiste bien, la Colombie qui est passée à gauche aussi, et où on voit des tentatives d'organisation infrarégionale de ces différents gouvernements de gauche pour résister à l'impérialisme et à la brutalité américaine. Parce que c'est là où je pense qu'il faut redire ce que c'est l'impérialisme. C'est la brutalité absolue, c'est l'extractivisme, c'est la violence, c'est le déni total de démocratie et de droit à l'autodétermination des peuples. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut aussi replacer ces menaces, parce que c'est ça, hein, tout simplement. Et je crois que ce qui s'est passé au Venezuela nous prouve encore une fois que ce ne sont pas des menaces en l'air. Là où je pense que après les menaces d'invasion du Groenland ou du Canada qui ont été proférées par Trump juste après sa réélection, nous ont tous un peu fait sourire sur les réseaux sociaux notamment. C'était une grande conversation. Donc le Canada va devenir le 51e État, etc.
Et puis ça n'avait pas été. Beaucoup de gens qui ne riaient
pas. Non, bien évidemment. Mais je pense que on était encore dans le moment où on pensait que le mandat 1 était le blueprint de ce qu'allait être le mandat 2. Et on est tous en train de réaliser que pas du tout. Mais c'est là où je pense que cette intervention même, elle nous prouve que en fait, il y a toutes les chances que ça se passe. Et ça, c'est très inquiétant. Et
c'est ce qu'a dit hier lors de cette conférence de presse Marco Rubio. Ne jouez pas avec ce président, il dit ce qu'il fait. Richard Verny, en quelques mots.
Alors moi, je ne crois pas que dans l'immédiat, les dirigeants cubains ou colombiens sont en danger pour une raison simple, c'est que ils vont prendre des précautions de sécurité encore plus grandes et que Donald Trump, vous savez, il y a le syndrome de l'an 2 dont parlait Gilles, mais il y a le syndrome de la deuxième opération. Elle est toujours plus compliquée que la première parce que vos adversaires s'y préparent. Donc, dans l'immédiat, je crois qu'en revanche, les pressions américaines vont être toujours plus fortes et ce qui risque de se passer, c'est que dans ces pays, les dirigeants en question vont faire face à, je dirais, une rébellion ou à peut-être des partis qui vont approcher les États-Unis, si ce n'est déjà fait, en proposant de travailler avec les États-Unis. Parce qu'un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est que Maduro a sans doute, on l'apprendra dans les semaines à venir, été trahi par des gens de son entourage, de son appareil sécuritaire et économique. Et c'est ça, à mon avis, le danger qui guette Cuba, la Colombie, c'est un cas différent, ou d'autres dirigeants dont Trump veut la peau, c'est la trahison, mais je vais aller plus loin. Ce qui guette la difficulté, le gouvernement danois, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, peut-être vous allez avoir des partis danois qui vont dire, qui vont aller vers Trump et qui vont lui dire « Le deal pour le Groenland, on est prêt. On est prêt à l'avoir. » Et vous, et nous avons des, pardonnez-moi l'expression, il y a à peu près 30% des électeurs européens de l'Union européenne qui aujourd'hui sont d'accord pour un deal avec Trump. Ils sont d'accord pour ce type de deal. Ils sont prêts à transiger. Et après tout, s'ils prenaient le Groenland, ce serait jouable, etc., etc. Donc c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'au fond, le signal qui est envoyé, c'est travailler avec nous, accepter notre deal, sinon on ira vous chercher là où vous êtes. Et la trahison est un danger beaucoup plus grand que le risque d'enlèvement par M. Trump.
Perrine Simon-Naoum, d'un mot.
Oui, je crois que tout ce qui a été dit est très vrai. La seule chose que je voulais dire, qui est peut-être un peu plus optimiste, c'est qu'il me semble qu'à l'échelle de l'histoire, nous comprenons très vite et nous analysons très bien. Le problème, en fait, qui se pose à nous aujourd'hui, c'est celui du rapport entre la puissance des instruments nouveaux, et Gilles Gressani l'a rappelé, et en fait l'ancienneté des passions. Or, ce qu'on voit, c'est que finalement, alors je ne sais pas si c'est très rassurant, mais il me semble que l'ancienneté des passions finit toujours par gagner. Nous avons défait le nazisme, nous avons défait le stalinisme. En réalité, on voit que ces mouvements populistes, cette violence, elle finit par se détruire elle-même. Le problème du parti nazi, ça a été que finalement, il a fini par s'autodétruire depuis la nuit des longs couteaux jusqu'à l'idée d'Hitler que finalement il sacrifiait l'Allemagne son propre sort. Je crois que l'Europe a les instruments aujourd'hui. Alors effectivement, il faut avoir du courage, mais le courage c'est aussi de maintenir notre singularité, de maintenir notre spécificité et les valeurs qui nous sont propres.
Pardonnez-moi, mais sans les Américains, nous n'aurions peut-être pas vaincu le nazisme. Il faut quand même le redire.
Mais sans Staline.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
I called the president and spoke with him directly.
J'ai appelé le président et me suis entretenu directement avec lui pour lui faire part de mon opposition à cet acte et préciser qu'il s'agissait d'une opposition fondée sur le refus de toute tentative de changement de régime, sur la violation du droit international et fédéral, et sur le désir de voir ce droit respecté chaque jour.
C'est l'autre actualité de la semaine aux États-Unis. Zohran Mamdani, investi jeudi 1er janvier maire de New York après son élection à la tête de la ville le 4 novembre dernier, plus jeune maire depuis le 19e siècle, premier musulman, c'est sur le Coran qu'il a prêté serment. Lors d'une cérémonie qui se voulait festive et populaire et un discours dans une ancienne station de métro, symbole de son programme pour la gratuité de certains transports publics, le socialiste qui s'était déjà frontalement opposé à Donald Trump continue, à peine élu, sur les frappes au Venezuela et le droit international. Que nous dit sa victoire? Faut-il la lire comme une réponse directe aux excès de Donald Trump? Nous en parlons toujours en compagnie de Perrine Simon-Naoum, professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, de Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent, de Richard Verly, éditorialiste international à Blic, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, et de Loumir Laprès, activiste. Ces gens-là plongés dans cette France qui pourrait tout faire basculer, c'était chez Payot en septembre 2025. On n'est pas encore en 2027. Voyez-vous la victoire de Zohran Mamdani à la mairie de New York comme une réponse à celle de Donald Trump l'an dernier? Loumir Laprès.
Je pense que c'est une réponse à une violence plus profonde de la société américaine. Encore une fois, ce que je disais au début de cette émission, pour moi, les États-Unis et le monde occidental au global sont vraiment à une croisée des chemins où on a un consensus d'une majorité, notamment des classes populaires, qui dit on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à vivre dans un pays où, je le rappelle, une majorité des travailleurs sont des travailleurs pauvres, où il faut 2 à 3 emplois pour pouvoir payer son loyer, où la dette médicale moyenne des États-Unis est de $26,000. Et donc, face à ce constat d'échec du modèle américain à garantir aux classes populaires et aux classes moyennes la prospérité et la poursuite du bonheur, ce qui était quand même la promesse américaine, il y a deux approches. Donc l'approche de Donald Trump qui est toujours plus de brutalité, toujours plus de violence, toujours plus de libertarianisme. Et il y a l'approche des nouveaux démocrates. Donc je pense à Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Graham Platner dans le Maine. Parce qu'il faut le rappeler, c'est pas seulement des projets urbains. C'est aussi dans toute l'Amérique populaire, y compris dans les zones rurales, des zones blanches et des zones désindustrialisées, un phénomène qu'on retrouve. Donc un projet de redistribution des richesses. Et pour moi, la candidature de Zohran Mamdani, elle s'inscrit bien évidemment dans ce moment de réélection de Trump, mais elle s'inscrit plutôt dans un moment de ras-le-bol totale d'une génération, la mienne en l'occurrence, complètement déstabilisée, désillusionnée face aux promesses de l'Amérique.
Gilles Gressagne.
La question, je pense qu'on pourrait la résumer d'une formule, c'est est-ce que Mamdani est le premier maire musulman de New York ou est-ce que c'est le premier maire socialiste de New York ? Et en fait, c'est une question assez fondamentale.
Pourquoi ça ne peut pas être les deux ?
Ça peut être les deux, mais en fait, on essaie de traiter les choses une à la fois. Et la première question, disons, qu'est-ce qui surdétermine l'autre, disons ? Il y a une des figures, à mon avis, les plus importantes et influentes de l'Amérique de Donald Trump, qui est Peter Thiel, qui est donc cet énorme oligarque fondateur de PayPal, de Palantir, qui aujourd'hui est vraiment au cœur de la construction de cet empire digital, de cet état digital dépolitisé. Enfin, on pourra revenir là-dessus, sur cette figure, mais il a une analyse de Mamdani, donc c'est pour dire qu'en fait, c'est une figure plutôt placée à l'extrême droite, plutôt antisocialiste, anticommuniste. Eh bien, lui, en fait, il considère que c'est pas du tout parce qu'il est musulman que Mamdani est élu, mais c'est précisément parce qu'il est socialiste. Et plus que cela, il a une formule qui, à mon avis, est assez utile. C'est qu'il dit, si vous prolétarisez une génération, il ne faut pas vous étonner que vous ayez les socialistes. Au fond, son analyse sur le cas Mamdani est structurelle. Il considère qu'au fond, aujourd'hui, il y a aux États-Unis deux problèmes fondamentaux pour la jeunesse. La dette étudiante, d'un côté, et de l'autre côté, l'accès au logement, qui font qu'il n'y a plus un intérêt objectif pour toute une génération à partager l'idée de se projeter dans un système capitaliste. Et ce qui répond à ce cas structurel, ce qu'il dit, c'est si vous n'avez rien à répondre à ça, autre que dire, c'est une question d'identity politics, c'est une question liée au fond à l'identité de Mamdani, eh bien vous continuerez à perdre. Cette analyse a été partagée, et on le voit bien, peut-être, et presque sûrement d'ailleurs, a aussi un impact sur la manière dans laquelle Donald Trump lui-même gère la relation vis-à-vis de Mamdani. Ça vous a pas échappé, Trump reconnaît Mamdani, répond au téléphone quand il appelle. Quand Mamdani s'est rendu à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, c'était des accolades. Fox News avait titré leur confrontation avec le socialisme. En fait, c'était presque une scène de séduction. Il faut jamais oublier ces dynamiques et ces dimensions pour Donald Trump. C'est un énorme séducteur. Mais c'est aussi quelqu'un qui a compris, sans doute, qu'il se jouait quelque chose de fondamental dans l'accès à cette nouvelle génération et à son incapacité à se projeter dans un système américain tel qu'on l'a conçu jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le premier maire socialiste de New York? Il nous dit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est face à un moment dans lequel des grands changements sont possibles et où, pour une partie très importante de la population, l'économie, et ça peut paraître paradoxal, n'est pas le lieu dans lequel on obtient des réponses. Pour une raison très simple, c'est que les États-Unis sont déjà la première économie au monde, sont déjà l'économie qui produit de la croissance, de l'innovation, comme aucune autre grande économie développée au monde sait faire. Or, évidemment, cette croissance ne va pas vers les masses, va plutôt vers un groupe de plus en plus restreint qui se structure autour de la cour du président des États-Unis. Et c'est là que se joue, en fait, une bonne partie de la nouvelle phase. C'est jusqu'à quel point c'est possible de refaire de la politique de masse aux États-Unis et jusqu'à quel point, en réalité, on est déjà dans une phase dans laquelle la restructuration digitale du politique par des axes de narratifs hyperpuissants qui viennent du populisme mais qui le dépassent presque par sa capacité d'être sous stéroïde, rend inaboutissable.
Richard Verli, vous qui avez parcouru les États-Unis récemment, comment analysez-vous ? Est-ce un réveil de la gauche américaine à la faveur d'un Donald Trump qui se raidit ? On a vu d'ailleurs d'autres victoires, hein, démocrates, vous nous en parliez, Loumer Lapré, au New Jersey, en Virginie. Ou est-ce une vue de l'esprit new-yorkaise ?
Alors, je pense qu'il y a deux manières de répondre à ce défi qui est celui souligné par Peter Thiel, donc qu'évoquait Gilles à l'instant. C'est-à-dire la paupérisation de la jeunesse, grave paupérisation de la jeunesse, qui ne croit donc plus au système capitaliste et qui vote pour un candidat socialiste, notamment à New York, où en plus il y a à se creuser des idées libérales traditionnelles qu'est New York. Vous avez deux réponses. Vous avez la réponse à la Mamdani, c'est une réponse qu'on pourrait qualifier socialiste, c'est prendre aux plus riches, sous une forme ou sous une autre, et notamment sous forme d'impôts, pour redistribuer. Mais il y a aussi la réponse de Trump, qui est prendre les ressources des autres pour vous les donner. Et au fond, la bataille idéologique, elle est entre ces deux modes de réponse. La redistribution, version Mamdani, ou la prédation, version Trump. Parce que qu'est-ce que Trump propose à son électorat? Et moi, je l'ai bien vu sur les routes américaines quand j'étais au contact de ces électeurs MAGA pendant des mois, et c'est ce que je raconte, c'est que eux, ils attendaient quoi de Donald Trump? In fine, des dollars. Ils ont voté pour un distributeur automatique de billets qui s'appelle Donald Trump. Or, comment on met les dollars dans la machine? On va prendre les ressources des autres. On enlève Maduro pour s'accaparer le pétrole vénézuélien. Demain, on force Zelensky à vous faire un contrat sur les terres rares. On fait la paix entre le Rwanda et le Congo, notamment dans l'espoir de récupérer tous les minerais qui sont importants. Et moi, ma grande interrogation, c'est quel est le modèle qui va l'emporter? Et est-ce que ces deux modèles, quelque part, ne sont pas complémentaires? Vous avez la redistribution à la Mamdani, dont on pourrait dire qu'elle est un socialisme à l'européenne, au fond. Et vous avez la prédation de Donald Trump, cette recolonisation du monde. Le discours qu'il envoie à son électorat, c'est « je vais vous rendre plus riche en allant piquer, par la force, les ressources de ceux qui les ont. » Et trois points de suspension, ne les mérite pas, parce que nous, quand même, les États-Unis, on est le premier pays du monde et la première puissance mondiale.
Perrine Simon-Naoum.
Oui, comme je l'ai dit, je suis très méfiante sur un discours radical opposé à un autre discours radical. Et finalement, j'ai une question pour mes amis autour de cette table. Je me demande, et ça pourrait nous arriver en France aussi si le RN arrivait au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer quand des gens qui, comme Mamdani ou Marine Le Pen, ont fait des promesses économiques à cette jeunesse qui effectivement est à la peine, qu'est-ce qui va se passer quand on va s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas tenir ses promesses, car ils ne les tiendront pas. Et la question que j'aurais à vous poser, c'est comment est-ce que vous expliquez que la première mesure qui est prise Mamdani, d'une part, de révoquer la définition de l'antisémitisme donnée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, et d'annuler un décret anti-BDS. Est-ce que c'est pas
BDS,
une manière de dire
le
boycott d'Israël? Est-ce que c'est pas une manière, finalement, et ça, ce sera encore plus grave que les faiblesses de la démocratie, de montrer que les populismes, encore une fois qu'ils soient à droite ou à gauche, ne peuvent pas tenir leurs promesses politiques, car ils n'en ont pas les moyens.
Loumière Laprès.
Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce que en réalité, on a vu.
C'est quand même les deux premières mesures qu'il a prises, le 2 janvier.
Non, il a annulé un ensemble de décisions prises par Eric Adams, l'ancien maire de New York, parmi lesquelles figuraient ces deux mesures. Mais c'était un paquet législatif dont ces deux mesures ont été extraites. Mais je veux dire, le projet n'était pas le projet était annulé, l'héritage du maire d'avant. Et pas cibler l'antisémitisme, il faut quand même le rappeler. Ensuite, quand on regarde l'histoire, encore une fois, c'est pour ça que moi, cette équivalence entre populisme de gauche et populisme de droite, elle me gêne énormément, parce que si on prend l'histoire américaine, le dernier grand populiste de gauche qu'ont eu les États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, il a profondément réussi son pari. Il a profondément réussi à amener une génération entière à faire des études, à permettre aux mineurs de se syndiquer, à permettre à toute une génération de classe populaire d'avoir enfin accès à la sécurité, la prospérité et à l'éducation. Et ça, il faut quand même le redire. Donc, c'est là où je pense que, déjà, faire une comparaison entre Marine Le Pen et je rappelle le programme de Marine Le Pen qui n'est pas financé. La totalité des économistes qui travaillent sur la question
de
Mamdani
non plus, on le sait très bien. Alors, non, parce que ça ne dépend pas des structures de la
même. Il est en poste depuis 3 jours, donc on peut peut-être lui donner.
Et par ailleurs, il y a un vrai plan. Et je veux dire, il a été prouvé dans l'histoire que quand on allait chercher l'argent là où il était, c'était exactement ce qu'a fait Franklin Delano Roosevelt dans les années 30, à un moment qui est assez similaire finalement, qui est un moment d'immenses inégalités de captation lunaire des profits par une toute petite élite, que ça fonctionne.
Dernière question sur ce sujet pour vous, Richard Verli, Gilles Gressani. Est-ce que finalement l'émergence d'un populisme de droite contraint la gauche à la radicalité? Et est-ce que les villes peuvent aussi être des remparts face au populisme? Je signale ce livre très intéressant qui sort cette semaine à l'Aube de Alain Cluzet, Les villes face au populisme. Gilles Gressani.
Oui, c'est une question effectivement très, très large.
Dont ces deux questions pour la fin.
Non, mais effectivement, vous avez raison de rappeler le fait qu'il y a effectivement aujourd'hui une espèce d'étonnante divergence entre des villes urbaines et le reste des pays. Et c'est une question, en fait, occidentale. C'est pas une question uniquement européenne, uniquement américaine. Vous avez un peu cette espèce de sociologie politique qui ressemble quand même pas mal. Si vous allez, par exemple, dans les terres d'Orban, ben, en fait, sa capitale, Budapest, est une capitale qui est gérée par un maire qui, en fait, pourrait tout à fait être maire d'arrondissement ici à Paris. Et c'est à peu près la même chose qui se passe aujourd'hui, même à Miami. Donc la question, effectivement, c'est une question plus profonde. Il faudra sans doute s'interroger. C'est la question du territoire. C'est la question de comment, en fond, se constitue un contrat social qui a quand même une matrice westphalienne. Enfin, je ne veux pas être trop long, mais dans lequel, au fond, quelque part, s'articule un territoire et une population dans un monde où, effectivement, notre vie ne se passe pas dans un cadre westphalien. Notre portable, dans lequel, en fait, on passe une bonne partie de notre vie, elle ne dépend d'aucune des lois, ni géographiques, ni même juridiques qui viennent d'un cadre westphalien, et on peut quand même s'interroger si, au fond, cette transformation radicale du pouvoir auquel on assiste n'est pas portée par le fait que nous avons aujourd'hui une géopolitique dans un espace digital qui transforme très profondément, en fait, la géopolitique dans l'espace physique. Or, là-dessus, je crois qu'effectivement, c'est le cadre d'explication qui permet de comprendre pourquoi on a un retour aussi brutal, aussi violent, aussi évident de mots qui paraissaient totalement oubliés. Enfin, là, on parle de colonisation, on parle d'empire, on parle de prédation, on parle de vice-roi, de proconsul. Enfin, on voit bien qu'en fait, on est en train de rouvrir intégralement le capot de l'histoire, mais précisément parce qu'en fait, la question qui est posée aujourd'hui est une question qui est presque aussi radicalement difficile et profonde que celle qu'ont dû y répondre les jurisconsultes type Bodin, qui ont inventé cette idée qui ne tient que parce qu'il y a des structures, qu'il peut y avoir une articulation entre un peuple et un territoire, et qu'on voit bien, en fait, en réalité, être mise fondamentalement à mal aujourd'hui au Venezuela, mais demain dans d'autres territoires et quotidiennement dans notre vie politique, notre vie d'imaginaire politique.
Il est l'heure des coups de cœur. En quelques secondes, Richard Verlet.
Alors oui, le populisme à la Trump nous oblige tous à la radicalité, je le pense. Je pense que de facto, avoir à la tête de la première puissance mondiale ce type de dirigeant oblige tous ceux qui tractent avec lui, qui ont des tractations avec lui, à faire preuve de radicalité, parce que Trump est quelqu'un qui de toute manière ne comprend pas la nuance, et les électeurs qui sont à l'écoute, qui sont devant leurs écrans de télévision ou devant leur poste de radio, ne comprennent pas non plus comment on peut répondre avec nuance à quelqu'un comme Trump. Donc il faut qu'on intègre un mode de réponse radical. Ça ne veut pas dire que la réponse elle-même ne peut pas être nuancée, mais le mode de réponse, il doit être radical, je le pense vraiment.
On continuera à en parler et à en débattre dans cette émission L'Esprit Public. Et je vais vous demander d'être très concis pour vos coups de cœur. Perrine Simon-Naoum, professeure attachée au département de philosophie de l'École normale supérieure. Aron, critique de Sartre, c'est votre dernier livre chez Calman Levy.
Donc, mon coup de cœur sont pour les récits d'Italo Calvino qui sont republiés aux éditions Quarto Gallimard. Calvino nous rappelle que nous sommes les seuls héros de nos histoires et que personne ne peut les écrire à notre place.
Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent.
Pour moi, c'est Le Crocodile de Dostoïevski. C'est une nouvelle assez courte, très belle, qu'on a publiée sur le site. Il y a 160 ans, Dostoïevski racontait l'histoire d'un fonctionnaire impérial qui est avalé par un crocodile. Je vous invite de la découvrir parce que ça parle de nous.
Loumire Lapré, activiste, votre dernier ouvrage, Ces gens-là plongés dans cette France qui pourrait tout faire basculer chez Payot.
Alors, c'est la chanteuse de musique country issue du bassin minier des Appalaches aux États-Unis, où j'ai passé 8 mois cette année à la rencontre d'électeurs de Trump qui s'appelle Sierra Ferrell et qui nous rappelle à quel point on peut être rural et radical.
Merci. Et à vous, Richard Verlet, éditorialiste international à Blick, auteur de Cette Amérique qui nous déteste chez Nevi Kata.
Un conflit d'intérêts que j'assume parce que c'est une collection que je dirige, mais dans les circonstances absolument tragiques de ce qui s'est passé à Crans-Montana, je me suis replongé dans 2 petits livres sur la Suisse de la collection L'âme des peuples. La Suisse par le Valaisan André Crétenant et le Valais par un autre Valaisan. Et ce sont 2 petits livres qui racontent l'esprit de la Suisse. Et dans ces circonstances, ils sont indispensables pour se rappeler que ce pays est résilient, mais ce qui lui arrive est absolument terrible. Et nous publierons bientôt Paris. Merci. La signature de quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est Philippe Meyer.
Merci infiniment pour ce coup de cœur. Richard Verly, le mien, c'est un documentaire, Mitterrand, une autre vie possible, signé de sa fille Mazarine Pinjot, à propos de l'homme écrivain, l'homme de culture, 8 janvier sur la chaîne parlementaire. Merci de nous avoir suivis. L'Esprit public, une émission que vous retrouvez bien sûr sur le site et l'application Radio France en podcast. Très belle année 2026 à vous. On se retrouve dimanche prochain en direct à 11h.